présenté par BPM Sport. BPM Sport, la radio des sports au Québec.
Yeah! Hey, c'est Jordan. Gros week-end de sport. Débutons par la Ligue de hockey junior maritime Québec. Le calendrier junior débutait hier et pour une première fois depuis 2008, on avait un match du côté de Terre-Neuve. Le régiment jouait son premier match à vie contre les Wildcats. Place maintenant à nos remparts. Ce sera à l'extérieur ce soir, duel en Estrie contre le Phoenix de Sherbrooke dès 19h. Mais vous viendrez faire un tour ce week-end au Centre Vidéotron. Premier match à domicile dimanche. Un solide match d'ouverture en vue. En plus, contre les Saguenay et Chicoutimi. Ça débutera à 15h. Demain après-midi 13h, ne manquez pas le Rouge et Or Football. Encore une fois, on est à l'extérieur, match au Concordia Stadium contre les Stingers. Laval tentera de rebondir suite à sa défaite de la semaine dernière contre les Carabins 38-28. Et pour nos capitales dans la Ligue Frontière, série égale 1-1 contre les Boomers. Après deux matchs au Stade Canac, Québec va finir ça à Schaumburg, Illinois. Et boy, bonne raide de char ça! Les matchs 3, 4 et 5 si nécessaire auront lieu ce soir, samedi et dimanche. Let's go, Caps!
Pour plus de sport, c'est BPM Sport.
BPM Sport.
100.9. He's back. Ray the Sports. Ray the Sports. Dans Morel Live. Et Will est en direct.
Radio X.
La chronique Raider Sports. Hey, c'est moi ça. Une présentation du Charbon Steakhouse. Avant le match, passez chercher vos côtes levées, burgers, steak ou plats cuisinés. Le charbon pour apporter, c'est une bonne idée.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Choix.
Choix.
Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh.
Radio X.
This hearing of the Task Force on Declassification of Federal Secrets will come to an order. Welcome, everyone. Good morning and welcome to the hearing regarding UAP disclosures. For too long, the issue of unidentified anomalous phenomena, commonly known as UAPs, has been shrouded in secrecy, stigma, and in some cases, outright dismissal. Today, I want to state clearly that this is not science fiction or creating speculation. This is about national security, government accountability, and the American people's right to the truth.
Bienvenue dans une autre édition des Radio X-Files. Ce soir, on va se concentrer sur les ovnis avec un des experts en chef, Christian Page. Bon vendredi.
Bon vendredi, Nick.
Comment ça va? T'as passé une belle semaine?
Oui, bonne semaine. Un expert, c'est un peu toujours étrange. De,
oui, hein?
Un expert de quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est.
Ouais,
je
c'est
suis
ça.
Un expert des animaux inconnus. Ben, si oui. Les animaux sont inconnus, comme le Bigfoot, comment peux-tu être un expert d'un animal dont on ne sait rien?
C'est d'accord.
Fait que, c'est un peu, c'est, on est plus dans l'univers de la spéculation qu'autre chose. Là. Mais bon, puis évidemment, comme on a le Bigfoot, si je prends l'exemple du Bigfoot, oui. Les experts vont nous dire, ah, le Bigfoot, il mange 3 pas par jour, il fait caca le mardi après-midi.
Ils connaissent bien ça.
Ah, oui. Ben, oh, ils connaissent bien ça, parfait. Mais ça serait bien si on avait l'animal quand même pour l'étudier dans un... ou dans son,
c'est vrai.
Ou l'étudier dans une cage ou l'étudier dans son environnement, là, comme le font les éthologues. Là. Mais bon, c'est un peu... Et dans le cas des ovnis, ben, c'est un peu la même chose. Hein, c'est...
Ben, ça reste nébuleux, mystérieux.
Voilà, comme le dit l'acronyme, hein, objet volant non identifié. Ben, s'il était non identifié, c'est ben, pour moi, c'est bien difficile d'être un expert de quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Là.
Mais,
et on utilise maintenant, pardon, hein, on n'utilise plus le terme OVNI, mais bien le terme UAP,
oui.
Ou PAN, hein, UAP en anglais, là, Unidentified Aerial Phenomenon, ou Aerospace Phenomenon. Et en français, c'est PAN ou PANI, un phénomène aérien non identifié. Je sais que c'est pas la première fois que je le mentionne, mais pourquoi ce changement de terme? Ben parce qu'avec le renouveau, le regain d'intérêt pour la question des ovnis, on a décidé en haut lieu, principalement du côté des Américains, parce que c'est, on va surtout parler de ça. Il y a eu le 9 septembre dernier, donc il y a quelques jours, une énième audition au Congrès américain sur la question des ovnis. Et on préfère utiliser maintenant le terme PAN ou PANI ou UAP en anglais, là, pour l'acronyme anglais, parce que le mot ovni est très souvent synonyme d'objet extraterrestre, hein, dans la culture populaire. Et c'est un mot qui a été très stigmatisé. Hein. Dès que quelqu'un dit « je m'intéresse aux ovnis », on entend en arrière-plan le « dou-dou-dou-dou-dou ». Donc, on a l'impression que si on changeait l'acronyme, c'était moins stigmatisé. Puis en même temps aussi, le terme « PAN », un phénomène aérien non identifié, colle davantage un peu aux observations, parce que dans bien des cas, en fait, 9 fois sur 10, les gens ne voient pas un objet, ils voient une lumière. Hein? Quand on regarde les témoignages, les gens disent « j'ai vu une lumière qui zigzaguait dans le ciel » ou « j'ai vu une série de lumières en forme de V ou en forme de carré », mais peu importe. On voit, dans 9 fois sur 10, les gens ne voient pas une structure. Ils voient des lumières qui suggèrent une structure. Donc, quand on utilisait le mot OVNI, ça disait objet volant. Donc, fondamentalement, dans la définition du terme ou de l'acronyme, on introduisait la réalité d'un objet physique et matériel. Or, c'est pas toujours le cas. Quand les gens parlent d'une lumière, c'est pas forcément un objet matériel. Ça peut être un plasma, ça peut être plein d'autres choses. Donc, le terme « phénomène aérien non identifié » est sans aucun doute mieux adapté à la réalité de ce que les gens observent. Maintenant, entrons dans le vif du sujet.
Oui.
Donc, comme j'ai mentionné, le 9 septembre dernier, on a entendu d'ailleurs l'introduction par Mme Anna Paulina Luna, qui est une représentante républicaine de la Floride et qui est à la tête d'une espèce de comité, disons ça comme ça, qui a été créé sous l'administration Trump. Déjà, on avait commencé à s'intéresser à la question des ovnis sous les administrations précédentes. Je parle principalement sous l'administration de Joe Biden. À partir de 2017, des publications dans le New York Times ont ravivé l'intérêt pour la question des ovnis, qui était un peu passé aux oubliettes là, depuis. Ça intéressait la communauté des ufologues, les spécialistes autoproclamés des ovnis. Mais sur le plan, disons, éthique ou étatique plutôt, le sujet des ovnis n'intéressait plus vraiment les autorités. Et puis, il y a eu ces articles en 2017 dans le New York Times qui ont ravivé l'intérêt. Et surtout la publication de vidéos qui avaient été tournées par des militaires de la US Navy et qui montraient des objets non identifiés qui faisaient certaines manœuvres et qui ont suscité énormément d'intérêt. On pourrait longuement parler, j'en ai déjà longuement parlé. Je pense qu'ici, il faut quand même mettre les bémols puis dire attention, là. Les recherches, parce que dès qu'on lit une histoire d'OVNI ou de fantôme ou de Bigfoot ou peu importe, souvent, on commence l'histoire en disant « le témoin était un médecin, le témoin est un policier, le témoin est un militaire », parce que ça donne l'impression que c'est plus crédible. Pouet, 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 je le répète pour la millième fois. Les recherches menées dans les sciences cognitives au cours des 20-30 dernières années montrent que devant l'inconnu, on est tous égaux. Donc, si tu observes un objet volant dans le ciel ou un ovni dans le ciel, que tu sois un quidam qui travaille dans un restaurant de restauration rapide, que tu sois un policier ou un militaire, on est tous exactement au même niveau. On n'est pas de meilleurs témoins. Un pilote d'avion, que ce soit un avion militaire ou un avion civil, c'est peut-être à quoi ça peut ressembler un Airbus A320 qui se trouve à 10 km. Mais quand il voit une lumière dans le ciel puis il ne sait pas ce que c'est, ben, il est pareil comme moi puis toi. Il va se mettre à spéculer sur la distance, la vitesse, etc. Donc, s'il n'y a pas des éléments techniques, hein, des données télémétriques comme le radar, etc., qui permettent d'évaluer la distance ou la vitesse de l'objet, on est littéralement dans le flou et qu'on soit policier, pilote, ça ne change strictement rien. Mais néanmoins, ces films présentés en 2017, qu'on présentait comme ça, puis on savait pas trop c'était quoi, évidemment, le public en général s'est dit « Hey, c'est sérieux parce que c'est des pilotes de la US Navy qui ont filmé ça. Bon, » depuis, on sait qu'au moins deux de ces films-là ont été depuis identifiés et l'un d'entre eux, crois-le ou non, n'est rien de plus qu'un ballon de plat. Un ballon, des ballons à l'hélium qu'on utilise dans les fêtes, là. Oui. Des petits ballons pour enfants. Là. Ben, il y en a un.
Comme en aluminium, là. Ouais.
Oui, c'est ça. Les gens ignorent que si tu prends ton ballon là, dans la fête de ton petit garçon ou je sais pas si tu as des enfants, là, mais tu as une fête d'enfants puis tu as des ballons comme ça, là, si tu es lâche, là, est-ce que tu sais que ça peut monter jusqu'à 30 000 pieds?
Ah,
avant,
oui?
Que le ballon, avant que le ballon...
Il n'explosera pas.
Là, non, il va monter jusqu'à 30 000 pieds.
Non,
donc, quand on nous dit, un pilote a observé un objet inconnu à 20 000 pieds, ça peut être un ballon, hein, parce qu'un ballon, ça peut monter jusqu'à 30 000 pieds. Et justement, l'un de ces films-là, j'en ai parlé parce que l'identification a été faite juste dans les derniers mois là, qui ont précédé la fin de la dernière saison des Radio X-Files. Il y a une de ces vidéos qu'on appelle la vidéo Go Fast. Et pourquoi Go Fast? C'est parce que dans l'image, les gens peuvent retrouver ça, là, il suffit simplement de taper dans leur moteur de recherche Go Fast. Ils vont trouver sur YouTube. C'est une vidéo tournée en version infrarouge, là, donc en noir et blanc. Là. Et on voit, donc, on est au-dessus de la mer et on voit un point qui semble se déplacer très rapidement. Et là, le pilote va réussir à faire un lock-on, un verrouillage de son radar sur l'objet en question. Et là, on entend le pilote qui s'exclame « Oh oui, je l'ai eu, hey, ça va vite, etc. » Puis là, il est tout énervé. « Wow, il a fait quelque chose d'extraordinaire. » Ben, crois-le ou non, ce film-là a été identifié il y a quelques mois par les membres de l'ARO, parce que je vais revenir là-dessus, mais le gouvernement américain s'est doté maintenant d'un organisme étatique au sein du département de la Défense qui s'appelle l'ARO, dont l'acronyme veut dire Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Et les responsables de l'ARO, donc, qui sont... des spécialistes dans le domaine de l'aéronautique, l'aviation, les radars, la télémétrie, tout le reste, ont clairement identifié cet objet-là qu'on voit et que le pilote semblait être si surpris parce que pour lui, ça allait tellement vite. Ils l'ont identifié clairement comme étant un tout petit objet qui a à peu près la taille, un petit peu plus... la grosseur d'un drone, finalement, un drone domestique, on s'entend bien, pas un drone militaire,
ouais.
Mais un petit drone domestique, ou la grosseur d'un ballon. D'ailleurs... C'est la proposition que soutient les auteurs du rapport d'explication, c'est de dire bah quand on regarde la grosseur de l'objet puis sa forme là, il y a 9 chances sur 10 que ce soit un ballon. Et donc un tout petit ballon là, qui fait une trentaine de centimètres de diamètre, donc visiblement un petit ballon comme on en retrouve dans les fêtes d'enfants, qui a été échappé et qui flotte au-dessus de la mer. Donc, on peut imaginer une fête sur la plage, le ballon a été échappé, puis là, il est entraîné par le vent, il se trouve à une dizaine de kilomètres plus loin au large, et là, il y a un pilote qui voit ça, puis bon, il zoome dessus avec son radar. L'impression que le pilote, que l'objet se déplace très vite, est un peu pour nous, le téléspectateur qui regardons ça, puis on a l'impression, effectivement, que l'objet se déplace très vite. C'est un effet, d'ailleurs, qui est expliqué dans le rapport, qu'on appelle un effet parallaxe. Dans le fond... C'est vrai que l'océan défile en dessous à 450 km à l'heure, mais le 450 km à l'heure, on n'est pas d'un point de vue statique, c'est un point de vue d'un avion qui vole à 450 km à l'heure. Tu comprends-tu? Donc oui, c'est un peu comme toi, quand tu es dans ta voiture, même si tu roules à 100 km, si je te bouche les yeux, tu as l'impression que tu ne bouges pas. Hein, parce que tu es assis dans ta voiture. Mm-hmm. Tu te déplaces en même temps que ta voiture. Tu n'as pas l'impression d'un mouvement. Ce n'est quand tu vois l'environnement autour de toi que tu prends conscience que tu es dans un objet qui, lui, se déplace à grande vitesse. Mais pour l'observateur à l'intérieur, tu n'as pas l'impression de bouger.
Non, puis des fois même, la vitesse, elle est faussée un peu. On fait juste regarder, par exemple, un avion dans les airs qui est en train d'atterrir, on dirait qu'elle se déplace à une vitesse réduite. Là, on dirait, elle va tomber.
Oui, mais... tout à fait.
Mais c'est vraiment quand la perspective.
Quand tu regardes un avion qui vole en très haute altitude, hein, un vol vers l'Europe, tu regardes puis tu peux suivre l'avion pendant de très longues minutes.
Oui.
Tu n'as pas l'impression qu'il se déplace si vite que ça.
Non, c'est
et
ça.
Pourtant, il vole à 500 km/h. On a des éléments comme cela. Donc, on appelle ça l'effet parallaxe. Et c'est ce qui trompe un peu un observateur non aguerri. Je ne dis pas que le pilote était non aguerri, mais visiblement, il était confondu par ça. L'objet se déplace, le rapport est très clair là-dessus, il se déplace à peu près à 7 ou 8 km à l'heure. Et c'était la vitesse des vents à ce moment-là, donc c'est un tout petit objet. Mais ça nous montre bien que même si on est un pilote aguerri à bord d'un F-18, ben, on peut être trompé par quelque chose d'inattendu. Et bref, c'est ce regain d'intérêt. On a créé cette organisation, le ARO, le Bureau d'identification des anomalies en tous les domaines. Il a été créé en 2022 sous l'administration de Joe Biden. Et on a eu les premières auditions. Et là, bien évidemment, ces auditions-là se poursuivent avec un nouveau mandat. Le mandat qu'a demandé Donald Trump, c'est qu'on rende public tous les documents qui ont un intérêt pour le public en général et qui ont été placés sous secret, sous scellé, pour X ou Y raison, et qui ont alimenté toutes sortes de théories du complot. Donc, on pense, il a demandé la publication des documents sur l'assassinat de JFK, sur l'assassinat de Martin Luther King, Robert Kennedy, et bien sûr, dans ce collimateur, il y a les ovnis. Il a exclu de cette demande les files Epstein. Bon, ça, c'est un autre domaine. Il refuse de publier les files Epstein. Ben, ça, c'est
autre chose.
Bref, c'est autre chose. Donc, c'est le mandat un peu qu'a ce task force, donc, de rendre public ces documents sur les ovnis. Et donc, il a chargé Anna Paulina Luna, qui est une représentante républicaine de la Floride, qui est en charge un peu de ce bureau, de ce task force. Il faut quand même mettre un peu un bémol. On dit souvent, c'est des auditions au Congrès. Faut-il le rappeler, le Congrès, c'est plus de 400 élus dans les 50 États américains. Mais ce petit comité qu'on dit biparti est généralement composé, comme c'était le cas présent lors des dernières auditions, il est composé d'une dizaine de personnes. Donc, on est loin des 400 ou 430 élus du Congrès. Là. Tu sais, c'est 8 ou 10 personnes. Là. Donc, quand on dit des auditions devant le Congrès, c'est, disons, des auditions devant une petite clique du Congrès. C'est plutôt ça, la réalité. Et quand on dit organisation bipartite, ben, c'est pour faire beau, parce que sur les 10 personnes qui sont là assiégées, ben, il y a 9 républicains et puis un démocrate. Ouais. Donc, c'est pas forcément équitable. Mais néanmoins, donc, un coup qu'on dit ça, bon, voilà, la session a été ouverte. C'était le 9 septembre, donc lundi de la semaine dernière. Et on a présenté, il y avait 5 sonneurs d'alerte, parce que depuis le début de ces auditions, on reçoit des sonneurs d'alerte qui viennent parler de leur relation avec le phénomène des ovnis. Et donc, ces représentants du Congrès les écoutent et vont adresser des recommandations pour que tel ou tel dossier soit rendu public ou forcer certaines autorités dans certaines arcanes du gouvernement d'ouvrir leur dossier sur la question des ovnis. Bon, cela étant dit, je dois t'avouer que je me suis tapé les 3 heures de ces délibérations, de ces discussions. Jusqu'à date, j'ai tout vu les 3 ou 4 précédentes auditions, et les trois dernières heures étaient parmi les plus pénibles. Même à un moment donné, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit « Coudonc, j'aurais dû me prendre un autre traitement de chimiothérapie qui dure à peu près 3 heures, je trouve ça moins pénible. » Ouais. Là, c'était vraiment là, pénible. Et là, ça n'engage que mon opinion. Je peux comprendre que des gens qui ont regardé ça peut-être n'auront pas la même opinion que la mienne. Donc, ça n'engage que moi, que mon opinion. Je te donne mon feeling quand j'ai regardé ça. D'abord, dans un premier temps, on retrouve parmi les élus du Congrès qui sont là, ces 10 ou 12 représentants du Congrès, à peu près toujours les mêmes personnes. Et par leurs propos, hein, autant leurs propos de lundi dernier, de lundi 9 septembre, que les précédentes auditions, on voit que ce sont des gens qui sont convaincus de l'existence des ovnis. Sens critique, zéro. Non seulement le sens critique est zéro, mais certains vont même parfois de réflexion d'une absurdité là, déconcertante. Hein, par exemple, Mme Luna, à plusieurs reprises, nous sort Roswell, par exemple. Ah oui, depuis Roswell, ou Roswell par-ci, Roswell par-là, elle semble ignorer qu'en 1995, le département de la Défense avait été chargé, par une demande du Congrès, justement, d'enquête, de rouvrir le dossier sur l'affaire de Roswell. Et on a publié un immense pavé de plus de 1000 pages qui montrait de manière assez définitive que l'affaire de Roswell n'est rien de plus que la chute d'un ballon qui faisait partie d'un projet secret. On espionnait les Soviétiques avec un type de ballon. En fait, le ballon lui-même n'était pas très secret, c'était plutôt sa mission qui l'était. C'était des ballons en Mylar qui étaient lancés en l'air, et le projet s'appelait Projet Mogul. Et l'un de ces ballons est tombé dans un champ au Nouveau-Mexique. Et c'est probablement, parce qu'on n'est jamais dans l'absolu, c'est toujours allant de l'hypothèse la plus vraisemblable à la moins vraisemblable. Donc, et l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que l'armée, en fouillant dans leur dossier, n'ont rien. Évidemment, je comprends que les complotistes diront « Oui, mais c'est l'armée », puis ils diront pas tout. OK. À partir de là, on a bien compris que si c'est la position que tu adoptes, il n'y a aucune discussion possible. on vient de fermer la porte. Fait que cynique, tu me dis, ouais. Oh non, l'armée nous cache tout, c'est parfait, bonsoir, on va parler des sports. Hein, ben le oui. Canadien ben va oui. commencer. Bien, bon, il n'y a pas lieu à la discussion. Donc, le département de la Défense dit, ben on a ouvert nos dossiers, on a regardé ça, on n'a rien trouvé sur. On a fouillé pour l'été 1947, Nouveau-Mexique, etc. Et ce qu'ils ont trouvé, ils n'ont rien trouvé à propos d'un engin extraterrestre et la récupération de cadavres d'aliens. Ça, ils n'ont rien trouvé là-dessus. Mais ils ont découvert qu'à l'époque, à peu près dans la fourchette où se produit l'affaire de Roswell, la base d'Alamogordo, qui se trouve au Nouveau-Mexique, qui est pas très loin de, qui est quand même une centaine de kilomètres de la base de Roswell, mais quand même dans le même état. La base d'Alamogordo procédait à des lancements de ballons secrets, ce fameux projet Mogul, et l'un de ces ballons a été porté manquant, le ballon numéro 2. Il a été lancé à la mi-juin, et ça peut rester en l'air pendant des semaines, ces fameux ballons, donc il est lancé à la mi-juin, puis on perd le signal, parce qu'il y a des équipements là-dedans qui transmettent de l'information télémétrique, puis on perd le signal, bon, ben merci, bonsoir. Et puis, à peu près à la même période, ce fameux Mac Brazel va trouver sur son rang un objet, hein, puis quand on parce que c'est toujours important, et là c'est le journaliste qui parle, quand on regarde une histoire comme ça, il faut toujours retourner à la source originale. Et quand on regarde la source originale, que raconte Mac Brazel en 1947? Est-ce qu'il parle d'un engin extraterrestre, de cadavres d'extraterrestres? Pas du tout. Ce qu'il dit, c'est « J'ai trouvé dans mon champ des morceaux de papier d'aluminium puis des petites poutres en métal avec des bouts de bois qui ressemblaient à un cerf-volant. » C'est ce qu'il dit. Or, si tu mets ça dans le contexte du papier d'aluminium, ça ressemble ouais. à une cible radar, des petits bouts de bois, des petites poutres, là, ça a de, là, il parle jamais d'extraterrestre ou quoi que ce soit. Ce qu'il frappe, par exemple, c'est que le métal, le fameux papier d'aluminium, il dit, c'est un papier d'aluminium assez étrange, parce que quand on le plie puis je le relâche, il reprend sa forme. Ça, il avait jamais vu ça. Ça semble tout à fait exotique. Mais pas besoin d'aller courir chez les extraterrestres pour ça. À l'époque, en 1947, le papier d'aluminium, la plupart des gens utilisaient du papier d'aluminium domestique, comme on a chez toi, le fameux foil, ouais, le papier ouais. alcan. Là. Le papier d'aluminium, quand tu le mets en boule, il reste en boule. Hein. Ben, il se déplie pas de lui-même. Ouais, ouais. Il revient pas. Mais par contre, à l'époque, l'armée américaine, est en collaboration avec la compagnie DuPont, avait utilisé un millard argent, un millard aluminisé, justement comme les ballons qu'on retrouve dans les fêtes d'enfants aujourd'hui. Et ça, ou que tu trouves, par exemple, dans le papier d'aluminium, que tes barres tendres. Hein, si tu manges des barres tendres dans le domaine alimentaire, on retrouve ce fameux papier d'aluminium. Et si tu le plies, là, si tu prends une barre tendre, tu l'ouvres, puis tu prends le papier d'aluminium de ta barre tendre, puis tu le plies, quand tu vas le relâcher, il va se déplier. Mm-hmm. Il va reprendre sa forme, plus ou moins sa forme. Et à l'époque, ce genre d'aluminium, de papier d'aluminium en millard, n'était pas disponible pour le public. Mais l'armée l'utilisait et DuPont était le conseiller de l'armée américaine pour la question atomique. Donc, c'est eux qui avaient le brevet pour développer ce fameux millard qui va devenir accessible au public que dans les années 50. Mais déjà dans les années 40, l'armée l'utilisait pour des ballons parce que c'est ce papier d'aluminium, ce fameux millard, il est excessivement léger, très résistant et beaucoup plus léger que des enveloppes en caoutchouc qu'utilisait l'armée pour d'autres types de ballons. Et dans le cas du projet Mogul, il était important que ces ballons-là puissent monter très haut pour ne pas être détectés par les Soviétiques. Donc, mm-hmm. c'est un peu la façon dont on faisait ça. Et quand le Mac Brazel dit « ce papier d'aluminium, il se plie, puis il se déplie, puis bon, c'est un peu étrange », discours qui sera repris également par un des militaires qui va aller récupérer les débris en disant « oh, il y avait un papier d'aluminium qui était un peu étrange », ben, pas besoin, comme je l'ai mentionné, pas besoin d'aller chercher les extraterrestres. Mais bref, tout ça pour te dire que l'armée dit « ben voilà, on a trouvé en juin, à l'été 47, il y a eu cette histoire de ballon mogul perdu et ça coïncide à peu près à la description, à la date à peu près où Mac Brazel dit avoir trouvé ses débris dans le désert. Donc, il y a de fortes chances que l'objet que l'on ait trouvé, c'était un ballon mogul. Et on comprend qu'à l'époque, les autorités ont essayé un peu d'envoyer ça sous le tapis en essayant de dire « Ah, oh, c'était rien qu'un ballon sonde. » Non, c'était pas un simple ballon sonde, mais on comprend également qu'on voulait protéger le fait que c'était un ballon secret avec une mission ouais. très particulière. Donc, bon... Tout ça était des... Il y avait des raisons secret défense derrière ça. Et même aujourd'hui, je te dirais qu'en 2025, la plupart des amateurs d'OVNI, hein, les ufologues, sérieux, tu auras toujours les zélés qui croient à réel, à n'importe quoi, là, mais les ufologues sérieux qui approchent la question des OVNI avec sérieux, je te dirais que 9 sur 10 sont assez convaincus que l'explication fournie par l'armée de l'air américaine est la bonne, que l'objet de Roswell n'était rien de plus qu'un ballon de ce projet secret, projet Mogul. Alors, quand tu entends des élus comme Mme Luna nous sortir Roswell par-ci, par-là, qui ne semble pas savoir qu'il y a 30 ans, l'armée américaine a fourni un énorme pavé sur la question. C'est un peu... Je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est un peu lunaire quand tu entends ça. Là. Tu te dis, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Et tu vois que les gens qui sont là posent des questions avec aucun sens critique. Tu sais, on n'est pas à se questionner sur « êtes-vous sûr que c'était des extraterrestres? » On est plutôt à poser la question « combien de doigts avaient les extraterrestres? » Tu sais, tu comprends? Là, tu dis, ouais. Attends une minute, là, avant d'arriver là, on peut-tu... Vous avez passé vite de A à Z. Là, tu sais, il me semble qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet à passer avant. C'est un peu ridicule. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir cette opinion-là. La première audition au Congrès, il y a deux ans et demi, ça avait suscité énormément d'intérêt dans les médias américains. Et aujourd'hui, à peu près rien. Un petit entrefilet par-ci, par-là. Ça n'intéresse plus. C'est devenu ridicule. Et les sonneurs d'alerte qu'on nous présente, ben, ce sont des gens qui ont des bien belles histoires, qui racontent plein de trucs. Mais finalement, on n'apporte jamais aucune...
On n'apprend rien, oui, c'est ça.
On n'apprend rien, puis ils nous racontent des histoires. Je ne remets pas en question le fait qu'ils aient pu voir quelque chose d'insolite ou d'étrange, mais je veux dire, on n'a pas besoin de passer en 2025 pour ça. Là, je veux dire, on a 80 ans de littérature sur les ovnis, et je te le dis, là, Nick, je vais te donner un cue, là. Si tu vas chercher un livre de 1972 écrit ces ovnis, là, qui raconte des témoignages d'ovnis, tu vas en trouver des témoignages de pilotes civils, de pilotes militaires, de militaires... Il y en a depuis le début des ovnis, l'ère moderne des ovnis en 47, là, des témoignages par des pilotes civils, militaires ou par du personnel militaire. Il y en a un pas un autre. Là, tu sais, là. Fait que le militaire, que le commandant, machin truc, en 2025, vient me dire qu'il y avait un ovni en 2014, ça change rien du gars. Tu sais, on nous dit, ah, le commandant Fravor a vu un ovni tic-tac en 2004 au large de la... De San Diego, ouais. Et l'astronaute Gordon Cooper dit aussi avoir, qui était un pilote, et tout un pilote, crois-moi, là, qui était un des membres du projet Mercury américain, dernier astronaute américain à voler en solo dans l'espace. Il a également volé durant l'émission Gemini. Gordon Cooper n'a jamais caché qu'en 1951, alors qu'il était militaire, il survolait la Corée, il a vu des ovnis. Bon, il ne le cache pas. Qu'est-ce que ça change? Rien du tout.
Non.
C'est-à-dire, OK. Alors pourquoi, quand je vois ces gens-là qui viennent, ces fameux sonneurs d'alerte qui viennent raconter leur petite histoire, et quoi encore? Mais rien du tout. Alors, si tu veux, on va prendre une petite pause.
Bien sûr.
Après ça, je vais te décanter un peu ce que l'ensemble de ces sonneurs d'alerte ont raconté. Et l'un d'entre eux, écoute, on avait introduit dans l'équation Bozo le clown. Et là, on va y aller. Alors, allons à la pause et on revient.
Bougez pas, on revient dans quelques minutes. Et si jamais vous voulez réagir, 88-670-9098, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de choix. 98 Radio X.
Radio X-Files.
Execute program. Avec Christian Page.
Radio X. Ouellet. En direct.
Est-ce que le pont va tomber bientôt?
Pas supposé. On n'a pas de données qui nous disent ça du tout. Au contraire.
C'est pas rassurant. Je vous arrête tout de suite, là, mais pas supposé. Là, c'est pas ce qu'on veut entendre.
La structure est dans un état acceptable.
Quand une dame nous dit qu'elle a mangé ce qu'elle considère une chaudière de gravelle sur sa voiture et que finalement, c'était des morceaux de métal, des bouts de rouille, des boulons, le terme acceptable me semble un peu exagéré, non?
Ouellet. En direct.
Lundi au vendredi, midi.
Radio X.
Présenté par l'Entrepôt de la Renault. Pour vos Renault au meilleur prix, on vous attend maintenant au 9030 rue John Simons, coin Henri IV et rue Jean H. Kruger, Trois-Rivières. Entrepôtdelarenault.com.
Oh, shérif, c'est une sacrée monture que t'as là.
Merci, Billy.
Où est-ce que t'as dégoté une monture pareille?
Bah, chez New Look. Ils sont tout pleins de montures.
À monture!
La deuxième paire de lunettes est gratuite à l'achat de n'importe quelle marque chez New Look. Jusqu'au 5 octobre, des conditions s'appliquent. Chantal Gravel, opticienne.
C'est l'événement de spa VIP chez Club Piscine Québec. À l'achat d'un spa jacuzzi ou solstice, obtenez l'ensemble bien-être ultime. Une valeur allant jusqu'à 3 800 $ et qui inclut en cadeau un bain froid portatif. Idéal pour profiter des bienfaits de la thérapie par contraste chaud-froid. Sentiment de bien-être général, sommeil plus reposant, détente musculaire et réduction du stress, offrez-vous un vrai traitement VIP. Venez découvrir le plus grand inventaire de spas de la région. Seulement chez Club Piscine Québec, Sainte-Foy et Lévis.
En montant dans le nouveau BZ4X chez votre concessionnaire, vous pourriez avoir l'impression que votre VUS a pris de l'avance. Parce que pendant que vous êtes encore en train de vous demander si vous avez oublié quelque chose, le BZ4X est déjà chargé. Tout ça grâce à la recharge programmée. Après, tout ce qui vous reste à faire, c'est de le ramener à la maison. L'événement Repartez en Toyota est en cours. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 11 000 $ en rabais gouvernementaux et en incitatifs clients Toyota. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Chez Maxi cette semaine, les fraises du Québec sont à 2,95 $, limite de 4. Le beefsteak de côte avec os à 8,88 $ la livre, 19,58 $ le kilo. Le dindon surgelé, 1,44 $ la livre, 3,17 $ le kilo. Pas de circulaire par la poste? Encore plus de rabais en ligne et chez Maxi.
C'est le moment de l'année où Profab vous accueille à son usine de Vallée-Jonction. Les 20 et 21 septembre, laissez-vous impressionner par la construction d'une maison en usine. Vous pourrez discuter avec notre équipe d'experts et visiter notre toute nouvelle maison modèle. Promotion exclusive, surprise et concours sur place. On vous attend.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Matelas Dauphin. Nous sommes l'un des plus grands fabricants de matelas au Québec. Notre force, fabriquer des matelas de qualité exceptionnelle à des prix imbattables. Nous les fabriquons, vendons et garantissons sans intermédiaire depuis 55 ans. Pendant le blitz du fabricant, économisez des centaines de dollars plus taxes payées sur tous les formats de matelas Alcove, ultra confortables, dont le double en spécial à 599 $ taxes payées. Livraison rapide et gratuite. Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise.
Lévis Chrysler, le meilleur concessionnaire de la Rive-Sud, où on s'occupe de vous pour un Jeep, Ram, Dodge ou Fiat.
Wow! Lévis Mazda, c'est là où on s'occupe vraiment de vous pour un CX-3, CX-30, CX-5, CX-50, CX-70, CX-90.
Hey, ça va faire les enfants. On est tous dans la même famille. Celle d'Auto-Québec. Et oubliez pas vos petits frères, Ted Ford Chrysler, Auto-Québec Occasion et Ford Appalaches. Visitez autoquebec.com. On s'occupe de vous.
Québec sera encore complètement hockey. Les Sénateurs d'Ottawa s'installent au Centre Vidéotron pour la dernière étape de leur camp d'entraînement la saison prochaine. Ils disputeront 2 matchs préparatoires, le 28 septembre contre les Devils du New Jersey et le 30 septembre contre les Canadiens de Montréal qui affichent déjà complet. Venez encourager les Québécois David Perron et Thomas Chabot, sans oublier Brady Tkachuk, Tim Stützle et Linus Hallmark. Faites vite pour réserver vos billets pour le match contre les Devils du New Jersey sur gestev.com et ticketmaster.ca.
Salut, c'est Carbo. C'est le moment de faire traiter ta voiture à l'Antiroute Crown, une entreprise bien de chez nous. Et pour un temps limité, tu épargnes 10 $ sur ton traitement à l'Antiroute canadien numéro 1 au pays. Rendez-vous rapide. Trouve le centre le plus près au crown.com.
Chapeau Ben, c'est votre magasin de liquidation à Québec, Saint-Georges et maintenant à Lévis. Pour de la nourriture, des vêtements et des nouveautés chaque semaine, c'est Chapeau Ben. Toujours de 20 à 60 de rabais sur le prix du marché. Chapeau Ben, des marchands de bonheur. ChapeauBen.com.
Maximétal, fabricant de véhicules incendie et utilitaires, recrute maintenant. Nous cherchons des soudeurs d'aluminium, des électromécaniciens, un aviseur technique et un superviseur d'usine. Contribue à la création de véhicules d'exception. Postule sur Maximétal.com, section carrière.
Du 1er au 30 septembre, c'est la grande collecte d'équipements de Charlebourg Toyota et de Kia Beauport. On recueille tous vos équipements sportifs qui ne servent plus pour les remettre au patron Le Pivot. Vos dons aideront les familles dans le besoin à bouger davantage. En participant, vous courez la chance de gagner 1 500 $ en cartes cadeaux chez Sport Expert Beauport. Plus on ramasse de dons, plus on fait d'heureux. Venez déposer vos articles de sport chez Charlebourg Toyota sur Henri Bourassa ou Kia Beauport sur Seigneurial. Aidez-nous à faire une différence.
Radio X-Files
avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Christian Page, on poursuit avec les auditions du Congrès sur les ovnis, comme tu l'expliquais tantôt, là.
Oui, donc on avait au départ 5 sonneurs d'alerte. Bon, déjà, ce qui me fait un peu sourire, c'est que ces sonneurs d'alerte, puis je ne minimise pas leur courage d'aller raconter publiquement leurs expériences. Mais bon, à un moment donné, quand on nous présente ces sonneurs d'alerte comme étant la meilleure invention, la plus belle chose qui est jamais arrivée aux États-Unis depuis le pain tranché, là, tu te dis, attends une minute, là. Comparé à ces sonneurs d'alerte, là, crois-moi, un Martin Luther King passe pour un petit garçon en culotte courte, là, tu sais, là, et bon. Là, tu te dis, c'est un peu du grand n'importe quoi, là, tu sais, un peu plus, là, puis on verrait DC Comics arriver dans la salle, puis Batman et Robin et compagnie, les super-héros. Là, là. Même, je te dirais que Superman, par rapport à eux, la façon dont ils décrivent les sonneurs d'alerte, il peut aller se rhabiller, le Superman. Donc, c'est un peu ridicule. Cette façon-là de présenter les choses, c'est un peu ridicule. Dans le cas présent, on avait 5 sonneurs d'alerte. Je vais rapidement passer sur 4 d'entre eux. On avait d'abord un premier qui s'appelle Jeffrey Nucitelli. C'est un ancien membre de la police militaire. Lui, entre 2003 et 2005, il disait avoir été témoin de 5 observations d'OVNI alors qu'il travaillait sur la base de Vandenberg en Californie. Il parle d'objets là, qui étaient de très, très grande dimension, des cubes ou des triangles volants. Et bon, à un moment donné, il y a comme le pouet-pouet-pouet. Quand t'écoutes son témoignage, t'es sur le bout de ta chaise. Ouais. Puis il dit ce sont des événements, des incidents qui ont été vus, qui ont été enquêtés, qui ont été documentés avant d'être transférés aux autorités supérieures et les documents ont été détruits.
Ah, tiens donc.
Pouet, pouet, pouet. Eh oui. Donc, c'est une belle histoire, mais bon, les preuves, c'est bon, un peu zéro. Ensuite, il y avait un autre type qui s'appelle Alessandro Wiggin, ou Wiggins. C'est un spécialiste des opérations militaires pour la US Navy. C'est important de dire que lui est venu témoigner en son nom personnel. Et là, il raconte qu'en février 2023, il était en début de soirée, il était au large de la Californie sur un navire qui s'appelle le USS Jackson, et il a vu un objet lumineux en forme de tic-tac sortir de la mer. Cet objet s'est envolé, est allé rejoindre trois autres objets qui flottaient dans l'air, pas tellement loin, et ces objets-là ont disparu à très, très grande vitesse. Donc, il dit, voilà, j'ai vu ça, il y avait d'autres gens avec moi qui ont observé le phénomène. Sauf que quand on regarde son témoignage un peu plus à fond, quand il en parle un peu plus longuement, quand il dit qu'il l'a vu sortir de l'eau, il admet volontiers que c'était juste à la ligne d'horizon. Donc, est-ce que l'objet qu'il a vu a sorti vraiment de la mer ou est-ce qu'il est arrivé, tu sais, si tu regardes du loin, parce que là, je veux te le dire, là, la Terre, elle est ronde.
Non.
Donc, si tu es dans un port maritime et que tu regardes au loin, ben, tu vas voir arriver, par exemple, les mâts d'un navire avant de voir le navire arriver.
Absolument.
Donc, l'objet qu'il a vu, il dit, il a sorti de l'eau, mais plus tardivement, lorsqu'il élabore sur son témoignage, il dit, c'était juste au niveau de l'horizon. Donc, il avoue pas vraiment être certain que l'objet est sorti de la mer. Mais néanmoins, c'est un témoignage intéressant, mais encore une fois, preuve à l'appui ou élément de preuve, zéro. Une bien belle histoire, mais qui s'arrête là et qui, comme je te dis, on a 80 ans de littérature sur les ovnis ou des histoires comme ça, là, on en a ad nauseam. Et 80 ans plus tard, ça n'a rien changé. Des témoignages. Ensuite, on avait un type qui s'appelle Dylan Borland. J'avoue que c'était un peu le côté pénible. Hein. Lui, c'est un vétéran, spécialiste des renseignements géospatials. Il s'exprimait, lui, sans son nom personnel. Et là, bon, il aurait observé son histoire, qui est assez fantastique. Il dit qu'il travaillait à la base de Langley en Virginie, une base de la US Air Force. Et là, à un moment donné, en sortant à l'extérieur, avec son téléphone portable, il est en train de parler au téléphone. Et là, il voit, à la base de Langley, il y aurait un hangar où la NASA procéderait à des essais de prototypes. Et là, il voit s'envoler aux côtés du hangar de la NASA un objet, un triangle équilatéral dont chaque côté, il dit que ça faisait 100 mètres de long.
Quand même.
Chaque côté du triangle, 100 mètres de long, c'est comme un terrain de football, ça. Fait que là, il dit, j'ai vu ça, ça a décollé, ça s'est envolé, puis ça s'est éloigné. Mais, quand il a vu l'appareil, son téléphone portable est tombé en panne.
Ah, tiens, non.
Il a pu prendre une photo, mais c'est pas arrivé.
Ouais.
Et là, c'est le discours complotiste. Là. Après ça, des hommes en noir sont venus me voir, puis on m'a humilié, puis là, j'ai plus de job, puis là, je vis sur l'assistance sociale, puis on m'a traîné dans la... C'était pénible. Là, t'écoutes ça, là, tu dis, ah, bien évidemment, il n'y a aucune preuve de ça. Là. Le titre nous sort ça, là, c'est une salade là, tout à fait épouvantable. Puis, ça se peut que ce soit vrai, mais bon, je veux dire, moi, comme journaliste, OK, mais sont où les éléments de ça, là? Tu sais, je veux dire, je peux raconter ça à n'importe qui, là. Il n'y a rien là-dedans. Ou est-ce qu'il interprète, est-ce que... Tu sais, on ne sait pas, peut-être que finalement, il a vraiment été licencié, puis il a peut-être été simplement licencié parce qu'il est incompétent. Tu sais, tu comprends-tu? Je veux dire, moi, je suis pas obligé de croire son histoire. Oh, j'ai été licencié parce que j'ai osé parler. Ça, c'est lui qui le dit, là. J'aimerais bien voir les documents qui témoignent de ça. Puis si, même si on sortait des documents... Parce que dans les théories du complot, c'est un peu ça le problème. C'est toujours un peu, on arrive toujours dans un cul-de-sac. Même si on sortait des documents qui démontrent que le type en question, M. Borland, était incompétent dans son travail, puis c'est la raison pour laquelle on l'a licencié, il y aura toujours des complotistes qui vont dire, ça, c'est ce qu'ils ont mis dans petite case, là, mais ça se peut que ça cachait autre chose. Donc, finalement, on n'en sort pas. Mais bref, ce témoignage-là, il était particulièrement pénible. Et de leur côté, les gens du Congrès, ils ont fait un aplaventrisme incroyable. On a pu lui donner une médaille, une couronne. Oh, pauvre monsieur, monsieur Borland, c'est épouvantable, le méchant gouvernement. Puis vous êtes tellement fin de venir ici témoigner. C'était pathétique. Là, je regardais ça, je me disais, mais voyons donc, j'ose pas croire que je voyais ça de mes yeux, mais c'était quand même ça. Ensuite, il y avait le quatrième est un dénommé Joe Spielberger, qui, lui, bon, un témoignage assez relativement court, hein, conseiller sur les projets du gouvernement. Il n'a pas vu grand-chose. En fait, il n'a rien vu du tout, mais il dit aux gens du Congrès que, de par sa position, il sait que le gouvernement cache des informations sur les ovnis. Donc, c'est à peu près ça que ça s'est réglé. C'est le cinquième sonneur d'alerte qui l'a écouté. Quand j'ai vu ce type-là à la table des sonneurs d'alerte, j'ai dit, hop, là, on est parti pour un grand tour. Là, j'ai sorti mon popcorn, mon petit chapeau, ma petite calotte, là, tu sais, avec un hélice dessus.
Absolument.
Puis avec mon sac de papier d'aluminium pour me faire une petite tuque au cas où, parce que ce cinquième individu, c'est un type qui s'appelle George Knapp. George Knapp est un journaliste de Class TV à Las Vegas. Il fait partie, hein, c'est bien important de bien comprendre que dans l'univers des ovnis aujourd'hui, il y a ce que moi j'appelle la clique. La clique, ça c'est 20 personnes à peu près aux États-Unis qui se donnent toutes des tapes dans le dos et qui font des ovnis leur pain et leur beurre. Documentaires, livres, émissions de radio, c'est leur commerce.
Okay.
C'est un peu comme le monstre du Loch Ness.
Oui.
Même si on a des études qui montrent qu'il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness, il faut se rappeler que le monstre du Loch Ness injecte dans l'industrie touristique locale 50 millions de dollars chaque été. Donc, les Écossais ont 50 millions de bonnes raisons de te dire de ne pas écouter ce que les scientifiques disent.
Ben, c'est sûr.
Donc, parce que c'est leur pain et leur beurre. George Knapp, les soucoupes volantes, c'est son pain et son beurre. Et là, c'était irréaliste. On avait George Knapp qui a commencé à nous parler de Bob Lazar. Ceux qui seront à ma conférence là, du 4 octobre prochain à Québec verront, j'ai un dossier sur Bob Lazar. C'est à peu près là, le plus grand escroc que l'histoire des ovnis a connu au cours des 50 dernières années. Ce type-là ment entre chaque respiration. Et là, il nous a parlé de Bob Lazar, de tous ses petits amis. Il racontait des histoires invraisemblables. J'ai été en Union soviétique, j'ai ramené des dossiers secrets. Si tu poses la question à des ufologues sérieux, ils vont dire les Soviétiques, là, durant les années 60 et 70, là, ont volontairement fait couler là, des milliers de pages de documents sur les ovnis, toutes des histoires inventées les unes que les autres. Des militaires transformés en rochers, des militaires qui ont été tués par des extraterrestres aquanautes dans le lac Baïkal en Union soviétique. Il y a même des photographies qui ont circulé, puis je suis bien placé, des photographies qui auraient circulé à travers un scientifique qui était lié avec les services de renseignement soviétiques, le fameux KGB, d'un extraterrestre de Roswell. Et la photo de l'extraterrestre de Roswell qui était montrée, c'est moi qui l'ai pris. C'est la photo d'un dummy qui se trouvait à Montréal, à Terre des Hommes, en 1976. Donc, je suis bien placé pour te dire que cette photo-là est une fraude. Mais, puis là, de voir George Knapp, ouais, moi, je suis journaliste, je suis allé là. Puis là, il y a un des membres du Congrès lui pose la question, mais oui, mais M. Knapp, comment peut-on être certain que ce document-là est authentique? Ben, parce que Bob Lazar me dit que c'était vrai, parce que Jeremy Corbell me dit que c'était vrai, puis ça, c'est tout... Toute la clique, hein? Tu sais, c'est un peu comme si toi, tu dis... le nom de Donald Trump n'apparaît pas dans les dossiers Epstein. Qui te confirme ça, Nick? Ghislaine Maxwell. C'est ça. C'est Ghislaine Maxwell qui me le dit. Ah, ben c'est sûr, si Ghislaine Maxwell te dit...
C'est vrai.
Écoute, c'était invraisemblable. Et là, moi, je pourrais faire l'exercice avec toi. Là, il y a un membre du Congrès, des pépites, là. Il y en a eu une puis un autre. Mais il y en a une qui m'a renversé, une des pépites, c'est une représentante du Texas qui dit « Ah, merci, M. Knapp, d'être ici. » Sous-entendre « Merci de nous entuber et d'entuber les gens qui nous écoutent. » Et là, elle dit « J'ai vu vos reportages et ceux de M. Corbell, Jeremy Corbell, un autre escroc de la pire espèce, qui fait partie de la gamique de la soucoupe volanterie. Ces gens-là, écoute, je pourrais faire l'exercice, Nick, de m'asseoir avec toi. Ces gens-là ont des documentaires, notamment, qui sont disponibles sur Netflix, dont une série de 6 épisodes par George Knapp, qui s'appelle « À la recherche des ovnis » ou quelque chose comme ça. Et je pourrais faire l'exercice avec toi pour te démontrer, pas te le dire, te prouver qu'il y a un mensonge ou une vérité transformer toutes les 2 ou 3 minutes minimalement. Puis on pourrait faire l'exercice. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et là, t'entends quelqu'un du Congrès qui dit « Monsieur Knapp, ah, vous faites vraiment des bons documentaires. » Ben tant mieux. Si t'as regardé ces documentaires puis c'est l'opinion que t'as de ces documentaires, c'est bien parfait. Donc, j'imagine que Madame Machin, quand elle regarde la télévision Société Distingue, par exemple, à Radio-Canada, elle pense vraiment que c'est une émission sur les extraterrestres puis que c'est sérieux. Mais c'était invraisemblable. Je tombais en bas de ma chaise d'entendre ça. Tu dis, mais voyons. Puis là, on nous montre une vidéo. D'ailleurs, on va le voir, ce vidéo-là. Je l'ai mis sur la page des Radio X-Files pour que les gens le voient. C'est à peu près... Parce que dans toutes ces discussions-là, inutile de dire que les preuves étaient zéro. Hein? Ces gens-là nous ont raconté des bien belles histoires. Il ne manquait plus qu'un petit coup de violon en arrière pour nous divertir correctement. Et là, donc, ils nous sortent tout ça. Et là, tout d'un coup, arrive le moment fort. Il y a Eric Burleson, qui est un représentant républicain du Missouri, qui faisait partie de ce comité du Congrès. Il dit, bon, j'ai reçu un film de manière anonyme. Gars, tout de suite, là, si tu as reçu un film de manière anonyme, calisse, présente-les pas. Tu sais pas d'où il vient.
Ça peut être du montage, ça peut être n'importe quoi. Ben oui.
Monte-les pas. T'es comme... Tu sais, là, je m'emporte un peu. Là. Ouais. Tu sais, t'es un responsable, t'es un élu au Congrès. Il y a des gens qui regardent ça. « Ah, j'ai reçu un film comme ça, puis je vous le montre, là. » Bon, OK. Fait que là, ils nous montrent ça. J'ai sorti ici mes petites notes là, pour te le dire. Bon, oui. C'est un film qui a été tourné Il a été tourné au Yémen, au large du Yémen, le 30 octobre 2024. Et ce que l'on voit sur les images, donc tu vois, les images nous montrent un objet au centre de l'image. Les gens qui suivront le lien que j'ai mis sur la page vont voir le film. Il dure à peu près 50 secondes. Donc, on voit un objet au centre, en noir et blanc, bien sûr, parce que c'est tourné depuis... En fait, on sait que c'était tourné à partir d'un drone. Donc, les fameux drones Reaper, là, qui ressemblent un peu avec des espèces d'avions avec une grosse bulle sur le nez. Là. Les gens voient un peu le type de drone. Donc, c'est un drone Reaper qui filme la scène. Il cible l'objet avec sa caméra embarquée. Et là, on voit un autre objet qui arrive, qui est visiblement un missile, qui vient frapper ce premier objet-là. Et là, on le voit se défaire en morceaux. Et là, on nous montre ça. Puis là, tout le monde regarde ça. Puis là, M. Burleson demande aux gens qui sont là, vous en pensez quoi? Puis là, ils sont tous, oh, c'est tellement bon, c'est tellement extraordinaire, puis c'est fabuleux, tu sais. Dès que les images ont été rendues publiques, il ne faisait pas une heure que les images avaient été publiées, qu'il y a plein d'experts dans le domaine de l'aviation qui travaillent sur des cibles, qui fabriquent ou des cibles pour les militaires ou qui ont eux-mêmes participé à des essais de tir de missiles en vol, ont immédiatement reconnu ce que c'était. Ils ont dit ça, c'est une cible, c'est un ballon qui est une cible et il a été frappé par un missile qu'on appelle un katana et le missile frappe le ballon, puis le ballon il explose. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Là. C'est une image qui est un tir de cible. Et là, de voir... Tu sais... si le film, avant que. Comment je pourrais dire? C'est le manque d'éthique. Tu dis, si Burleson reçoit cette image-là de manière anonyme, ça se peut que ce soit le smoking gun qu'on attend, mais va pas le montrer au Congrès avant de l'avoir montré à des experts. Tu comprends? Il sort ça de sa poche. Ah, j'ai de la gomme ballon puis j'en donne à tout le monde. Voyons, c'est quoi? T'es déconnecté, mon bonhomme, là. Tu prends ton film, tu le présentes à des experts, tu regardes ce que ces gens-là ont à dire de ce film-là, et très rapidement, tu te rends compte qu'on t'a entubé, mon Eric, là. Puis là, ben Eric, pas content d'être entubé, il nous entube aussi en nous montrant ce fameux film-là, en nous faisant croire que c'est très mystérieux. Puis évidemment, que George Knapp, qui est assis à la table, c'est sûr que George Knapp, pour rien au monde, il va dire que c'est un tir sur une cible. Lui, écoute, s'il aurait pu te mettre des petits bonhommes verts avec ça, te ressortir Bob Lazar, la zone 51, il l'aurait fait, là, parce que c'est lui, à chaque fois qu'il dit Bob Lazar, ça fait cling, cling, cling dans son portefeuille.
Ben oui,
cling,
c'est
cling,
ça.
Un petit peu d'argent. Cling, cling, cling. Oh, hey, oui, monsieur, des extraterrestres. Cling, cling, cling. Oh, je vais faire un documentaire avec ça. Cling, cling, cling. C'est d'une absurdité, là. Je regarde ça. Écoute, je te dis, là. 3 heures, mais c'était pénible de regarder ça. Je me dis, mais mon Dieu. Et je me suis pris un petit café, puis je me suis donné une tape dans le dos. Je dis, mon Christian, tu l'as fait, tu as regardé 3 heures de ce déblatérage d'absurdité, mais totale. Et ce qu'on retire de ça, c'est preuve zéro. Et encore une fois, ces gens-là, pendant 3 heures, ça a été de répéter. Oh, le gouvernement, il est méchant, le gouvernement nous cache tout, puis il y a des compagnies comme Lockheed, des compagnies comme McDonnell Douglas qui ont récupéré des soucoupes volantes, puis les déconstruisent pour construire des nouveaux engins. Ce qui est en soi, honnêtement, puis je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, c'est une absurdité, parce que moi je prends mon téléphone, puis je vais le donner à un scientifique chez Louis XIV, à la cour de Louis XIV, il aura beau le démonter, il n'arrivera jamais à savoir ce que c'est. Tu sais, je veux dire... C'est d'une absurdité, cette idée-là. Ce qu'on peut démonter, qu'on pourrait essayer de comprendre, c'est une technologie qui serait très légèrement en avance sur nous. Hein? Par exemple, les Soviétiques développent un nouveau moteur à fusion, quelque chose comme ça.
Ouais.
Ça reste à la portée de notre compréhension.
Absolument.
Donc, les Américains mettent la main là-dessus, ils déconstruisent, ils disent « Ah, voilà! » Mais si, même si je prenais un objet qui serait 15 ans en avance, hein, imaginons qu'un voyageur du futur arrive avec un objet qui est 10 ans en avance sur nous, ou 20 ans en avance, pas loin, 20 ans en avance seulement, on n'arriverait même pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Fait quand on me dit qu'ils ont récupéré une soucoupe volante qui doit être des milliers d'années d'avance sur nous, puis il y a Lockheed Martin, sont en train de développer quelque chose là-dessus. C'est drôle, quand tu regardes, les extraterrestres ne devaient pas être super bons. Ou bien les extraterrestres sont pas bons, ou Lockheed Martin est pas bon. Parce que quand tu regardes les avions qui sont construits par ces grands constructeurs, le Lockheed Martin, McDonnell Douglas, qui sont en train de construire des drones, on a parlé du Reaper, mais on pourrait parler, par exemple, des drones sentinelles qui sont en train de mettre au point, là, qui ressemblent un peu à des flèches. Ce sont des drones qui sont d'une technologie 2025. Tu sais, tu comprends, c'est pas... Lockheed Martin ne sont pas arrivés demain matin, sont pas arrivés encore en disant « Oh, on a un nouvel avion à vous proposer. » Cet avion-là, il se déplace grâce à de l'énergie télékinétique à l'intérieur d'un plasma biométrique. Non. C'est toujours une technologie très de pointe, on s'entend, c'est toujours une technologie de pointe, mais c'est une technologie qui est une technologie humaine.
Et qui a évolué au fil.
Oui, voilà, on a jamais vu quelque chose. Ben, visiblement, si Lockheed Martin ou McDonnell Douglas déconstruisent des ovnis pour adapter cette technologie-là sur les avions, ben laissez-les faire, parce que visiblement, ça les amène pas bien ben loin, parce que jusqu'à maintenant, quand on regarde leurs avions, même les plus sophistiqués qu'on voit sortir de l'arsenal militaire américain, c'est rien de plus qu'une technologie de pointe, mais une technologie tout à fait humaine et à la portée de n'importe quel scientifique. Donc, mais c'était le discours, un discours très complotiste. On nous cache des choses. Puis là, évidemment, quand on pose la question, puis on va se laisser là-dessus parce que je sais que le temps file, j'étais tellement en tabarnouche,
pour
être poli. Je regardais ça, c'était invraisemblable. Je pense pas que ça rende service à ce milieu-là des ovnis de voir un truc comme ça. Mais quand je regardais ça, je me disais, bon, OK, les méchants gouvernements, etc. Puis là, tu dis, le gouvernement a mis en place un organisme étatique en 2022 là, pour enquêter sur les ovnis, qui est l'ARO. Quand les membres du Congrès ont poser la question à George Knapp et les autres sonneurs d'alerte. Oui, mais est-ce que vous avez été témoigné devant les membres de l'ARO? Puis si vous avez des preuves, des films, est-ce que vous les avez donnés à l'ARO pour qu'ils étudient? tu me vois venir? La réponse était non. Parce que les haros sont trop pas fins. Les haros, les gens de l'haro font également partie du complot.
OK, mais il y a beaucoup de monde encore.
Donc, vous n'avez pas compris. Donc, ça nous donne... On vient vous le dire ici, on a des preuves, on a des documents russes. Ben oui, des documents russes. Absolument. Donc, une photo d'un bonhomme de caoutchouc photographié à Montréal en 76. On a tout ça, là. Mais on les donne pas à l'haro parce que l'haro, c'est les pas fins aussi. Ils font partie du complot.
OK.
Que c'est minable. Tu dis, écoute,
c'est ridicule.
C'était du vaudeville. J'ai pas d'autre mot que ça. Ouais, je regarde ça, je dis, bon, c'est du vaudeville. Il manque rien que Pinocchio va arriver en arrière, là, une petite marionnette à gauche, par droite. Que c'était ridicule. La seule chose qu'on peut dire, c'est, bon, ben, pour les témoins, s'ils ont réellement été témoins de ce qu'ils racontent avoir vu, ben, il fallait un certain courage pour le raconter publiquement, parce que c'est sûr que dire que tu as vu des ovnis, c'est toujours un peu l'objet de
colibet. Ouais.
Mais au-delà de ça, le reste, l'ensemble de la discours est inviter George Knapp. Écoute, inviter George Knapp. Ben, Bozo le clown, tant qu'à y être. Écoute, c'est du grand n'importe quoi. Inviter George Knapp pour parler de soucoupe volante. Lui, là, il était là. Il est sorti de là. Dans sa tête, là, je sais ce que ça faisait. Ça faisait cling, 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 cling.
Ah, il était très heureux. Ah,
oui. J'ai témoigné au congrès. On va voir ma face au congrès. J'ai parlé, j'ai eu de l'air.
Cling,
cling, cling, cling, cling, cling. C'est sûr que demain matin, je me fais un nouveau documentaire. Cling, 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 cling. Écoute, c'est absurde. Là. C'est dit, écoute, on est tombé très bas. Et jamais, à aucun moment, ces gens-là se sont posés la question. Comment ça se fait que nous autres, on est tellement occupés, préoccupés par ça? Les hommes en noir, McDonald Douglas, Lockheed, cachent des ovnis, etc. Et le reste du monde semble s'en foutre complètement. Si on était menacé par des extraterrestres, il me semble que les autres nations du monde seraient quand même préoccupées de savoir qu'on est visité par une civilisation qui est beaucoup en avance sur nous et qui pourrait nous flocher du jour au lendemain. Mais on n'a pas ce sentiment-là.
Non,
quand tu regardes du côté de l'Angleterre, la France, l'Australie, on
ne
s'en préoccupe pas trop. On ne sont pas du tout stressés. Les Russes sont visiblement beaucoup plus stressés à construire des drones pour aller attaquer l'Ukraine que de se dire on va se défendre contre les extraterrestres.
Non, effectivement.
Bien, sur ce, écoute, je sais que notre temps est écoulé, mais
oui.
Bon, c'est ça pareil. Donc, c'était mon compte-rendu des auditions du Congrès de la semaine dernière, 9 septembre 2025, une date à marquer, pas nécessairement...
Pas à retenir, ouais. Christian, la bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver vendredi prochain pour une autre édition des Radio X-Files d'ici
ouais,
là.
Oui, absolument.
Je te souhaite un excellent week-end.
Bien, toi aussi,
merci
bon week-end
beaucoup.
Également à tout le monde.
Merci, ciao. Merci d'avoir été à l'antenne. Et ben, à la semaine prochaine.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Cette semaine, écoute Morin Live.
Et tu pourrais gagner un forfait en occupation quadruple d'une valeur de 2 400 $ pour la première édition du tailgate légendaire du PP Tour. Une présentation de G-Stock. Tu veux partir à New York voir les Packers de Green Bay affronter les Giants? PP Allé, Choix Radio X, Rêve Sportif et Linox t'envoient vivre le PP Tour 2025. Un voyage de 4 jours pour 4 personnes présenté par G-Stock. Le trip sportif sera du 14 au 17 novembre. Participe au concours ou achète tes forfaits au RadioX.com.
Radio X.
Tu mets le paquet au travail. Normal que quand vient le temps de t'amuser, tu sors l'arsenal. Tu sors à la distillerie Arsenal. Unique à Québec. Un décor grandiose pour des soirées inoubliables. Un menu qui éveille tes sens, des cocktails uniques et énergiques et une ambiance qui donne envie de taper du pied, danser et veiller tard. La distillerie Arsenal, sur Charest, près de Saint-Sacrement. Cherche pas, tout est là. La recette parfaite pour dîner, souper ou veiller. Réserve dès maintenant. ArsenalDistillerie.com.
Mes amis, il est temps de dire un dernier adieu aux anciennes règles de tri. Elles emportent dans le deuil tous nos doutes devant le bac de récupération.
C'est vrai que c'était mélangeant.
Maintenant, la règle, c'est contenant, emballage, imprimé.
Donc, je peux mettre ma bouteille d'huile d'olive?
Oui, contenant.
Mon papier d'aluminium?
Oui, emballage.
Les lettres d'amour de mon ex?
Imprimé.
Dites adieu aux anciennes règles de tri. La seule à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. Un message de Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective.
On dit que l'automne est la saison des couleurs. Mais les plus belles ces jours-ci sont d'inspiration scandinave et se retrouvent dans la salle de montre chez Volvo Ville de Québec pendant l'événement Expérience d'automne.
À partir de 57 231 en location à 299 $ aux deux semaines, louez dès maintenant le XC40 semi-hybride 2026 à 1,99% d'intérêt avec un acompte de 1 900 location 48 mois. Passez en mode « Ma vie, ma Volvo ». Détails chez Volvo Ville de Québec. Les conditions s'appliquent.
Bonjour, je cherche un divan de style moderne.
OK. Moderne style contemporain en cuir tanne aux lignes super épurées ou moderne style divan nuage super design dans une couleur tendance?
Je pensais moderne, là, comme dans « Mon salon a besoin d'un coup de jeune, j'ai deux ados, un chien, un iguane puis un budget à respecter ».
Ah, moderne style pratico-moderne avec une touche d'exotisme accessible. Alors, je vous montre ça tout de suite, suivez-moi.
Avec plus de 35 000 articles, on a le style que vous cherchez. Tanguay, tant de beaux styles.
Cet hiver, dites non aux pannes. Soyez préventifs, faites inspecter vos tracteurs et chargeurs chez Machinerie Avantis. Profitez de notre plan complet d'entretien à partir de seulement $489,99. Huile, filtre, étalonnage et inspection en 36 points, tout y est. Et faites vite, l'offre est valide du 1er septembre au 15 novembre seulement. Machinerie Avantis, vos machines en sécurité toute la saison. Certaines conditions s'appliquent.
Escale VR s'installe aux Galeries de la Capitale. Rabais jusqu'à 20 000 taux exclusif et vérification de vos joints d'étanchéité, plus la fermeture et l'ouverture de votre VR pour deux saisons avec achat. Escale VR, aux Galeries de la Capitale jusqu'au 19 octobre, face à Meubles RD.
En Suède, le minimalisme n'est pas synonyme d'ennui. Il s'agit d'éliminer le superflu et de perfectionner le reste. Polestar 3, le VUS électrique qui se conduit comme une voiture de sport. Pas de parure, pas de fioritures, simplement le design et la performance perfectionnés. Louez votre Polestar.